Non, là, je suis en question. Je n'ai pas l'intention d'étudier cela maintenant, sans nous prendre notre temps. Je vais en ouvrir une parenthèse à cause de cette question de vocabulaire. Mais faisons comme si la Mishnah a dit aussi pour les Omatarlam Tzadiki. Hein, et je referme la parenthèse. Vous pouvez y réfléchir d'ailleurs à la question. Et alors, vous voyez, il y a le Tzadik selon Noah, et on les appellera Hassidi Omatarlam. Ce n'est pas grave. Hein. Il y a d'autre part le Tzadik selon Abraham. Et vous avez là une définition de portée radicalement différente que Rashi va déjà indiquer dans le deuxième commentaire que nous allons lire ensemble à propos de Bedorota, que Noah était tzadik dans ses générations, au pluriel. Alors je lis assez rapidement et je traduis. Yesh maravotenu, certains de nos maîtres, Dorshi noto veshvar, ont expliqué cette expression qui était tzadik dans ses générations, au pluriel, dans l'ordre d'une louange. Ça voudrait dire Kol Sheken a plus forte raison chez Ilouaya Bedor Tzadikim que s'il se trouvait dans une génération de justes, Aya Tzadik Yoder, il serait encore plus juste. Comprenez le raisonnement, okay? Dire que Noir était juste selon sa génération, ça veut dire, ça pourrait dire un peu à la limite de façon négative, bon, un borgne au pays des aveugles, il est quand même borgne. Vous voyez ce que je dis? Le Midrash dit le contraire. Ça veut dire l'inverse. Ça laisse une louange. Dire si, au milieu de Rechaïm, il était capable d'être juste, alors, au milieu de Tzadikim, ça l'aurait aidé à être encore plus juste. Donc, c'est une louange. C'est clair? Voilà. Veyesh Meravotenu, et d'autres de nos maîtres, c'est Dorshim, Oto, Ignaï. Mais d'autres l'ont au contraire expliqué ce terme de selon ces générations, Ignaï. Je ne sais plus traduire l'ignorie. De façon péjorative. En sa défaveur. Les filles d'Oro à Yatsen, il n'était juste que selon le jugement porté sur sa génération. Mais s'il était dans la génération d'Abraham, il n'aurait même pas été mentionné. Est-ce que c'est clair? Bien. Et voilà l'explication que je voudrais vous donner. C'est que, puisque nous sommes renvoyés à cette comparaison entre Noah et Abraham, le Midrash, en exploitant ce thème, et je dois donc vous faire ressouvenir de quoi il s'agit avec Abraham, va nous donner toute une série d'indications qui nous montrent qu'il s'agit bien là de tzadikim d'une nature différente. Alors avant de commencer, je voudrais quand même indiquer cela. Il ne reste pas moins que la Torah dit que Noach est un grand tzadik. Il ne faut pas tomber dans le piège de se prendre pour plus grand que Noach. Nous qui étudions ce texte, ça reste un très grand tzadik grâce à qui l'humanité a été sauvée. Et on l'étudiera de différentes manières. C'est-à-dire, on a toujours tendance, lorsque on lit ces textes qui portent un jugement sur des grands, de se mettre encore plus haut que pour les regarder d'en bas. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Noir, c'est un grand tzadik, mais d'une certaine nature. En particulier, dans cette comparaison avec Abraham, il s'agit de l'épisode dans lequel Dieu fait savoir à Abraham qu'il va juger Sodome et Gomorrhe et le détruire, parce qu'il y avait encore là-bas, de la même manière, saturation de violence, mais Abraham, immédiatement, intervient et plaide. Alors que Noir entend dire ce que nous avons lu tout à l'heure, qu'une sanction de destruction va s'abattre sur l'humanité, et la Torah ne dit pas en tout cas qu'il a intercédé. C'est-à-dire la Torah n'a pas jugé que même s'il a intercédé, c'était de manière telle que ça méritait d'être signalé. Est-ce que c'est clair? Et je vous citerai d'ailleurs un midrash qui me semble très suggestif à ce sujet sur le verset 8. Le verset 8 dit « Ben Noach matzachen b'ene Hashem » et Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et le midrash dit « Ou b'ene Noach » Akadosh Baruch Hu le matza klum afilu dima. C'est-à-dire, et dans les yeux de Noah, Dieu n'a rien trouvé, même pas une larme. C'est-à-dire, c'est un juste, il ne fait pas le mal. Mais voilà, un juste tel qu'il est capable, entendant une telle sanction, et j'espère vous avoir indiqué tout à l'heure, à quel point c'est une catastrophe, une humanité entière qui est détruite. Et même si elle le mérite, il n'en reste pas moins que l'événement est énorme. Il entend une telle sanction et il n'intercède pas. Et le Midrash dit, il pleure pas. Alors que Abraham, et nous savons très bien que c'était les gens de Sodome et de Gomorrhe, les plus grands Rechaïm, dit la Torah, entend le même jugement, la même sanction annoncée contre Sodome et Gomorrhe, et il plaide, il discute pied à pied avec Dieu lui-même pour essayer de les sauver. Voilà une des différences. Dans l'ordre de cet enseignement, nous verrons qu'il y a un troisième niveau, c'est Moïse, qui intervient pour Israël au moment où il y a des fautes dans la génération du désert. Et là, c'est encore plus haut que la manière dont Abraham intervient. Nous allons revenir à notre sujet, la comparaison entre Noach et Abraham. Alors, je dirais cela de manière un peu schématique. La manière dont Noach est juste est définie de façon un peu négative. Il ne fait pas le mal. Mais il n'y a pas d'indication qu'il soit juste dans le sens positif de faire le bien et pas seulement de ne pas faire le mal. En tout cas, d'être capable de cela. Il y a deux catégories du tzaddik dans la tradition, c'est le tzaddik et le tzaddik tov. Tzaddik, seul, sans adjectif, c'est entre l'homme et Dieu. Tzaddik tov, c'est aussi entre l'homme et son prochain. Alors ça n'est pas indiqué à propos de Noach. Encore une fois, ça ne nous autorise pas à porter, nous, un jugement sur Noach, mais la formulation du texte est claire. La stature, le profil de l'identité d'Abraham en tant que tzaddik dépasse infiniment. Demain, on pourra dire tzaddik, de l'autre, on pourra aller jusqu'à dire tzaddik tov, dans la définition que je donne. Mais, quoi qu'il en soit, je vous signale comment le texte l'a indiqué. C'est que Noach et tzaddik est à Elohim, alors que Dieu dit à Abraham, il t'a l'air lefanaï, veillez, tamé. C'est clair jusque-là? Une autre indication que le texte nous a donnée, que je vous signale en passant pour ceux d'entre vous qui sont plus avancés, c'est que Noach a trouvé grâce aux yeux de Hachem, dit le texte, le Noach Matzachem Bene Hachem, alors que lorsqu'on nous dit qu'il est tzaddik, on nous dit et à Elohim, il t'a l'air noir. C'est-à-dire qu'il est tzaddik par rapport à Elohim, mais qu'il a trouvé grâce aux yeux de Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dirais assez simplement, pour ceux qui n'ont pas encore suffisamment étudié cela, par rapport à l'ordre d'une vérité morale d'après les lois de la création, et le nom de Dieu comme créateur du monde, c'est Elohim, Noach et tzaddik. Par rapport au projet de Dieu pour l'histoire humaine, et dans le projet, dans son projet pour l'histoire humaine, c'est le nom de Hachem qui se révèle, par rapport à ce projet, Noach a trouvé grâce. Ça va jusque-là? Bon. Et alors, ce que je vous ai dit là, c'est que Noach est défini comme tzaddik par rapport à Elohim, et que, alors que Abraham est défini comme tzaddik par rapport à Hachem, et que Noach est avec la révélation déjà acquise, est à Elohim, alors qu'Abraham précède et en avant, il t'a l'air les fanailles, une sorte d'éclaireur qui ouvre la route là où la révélation pourra passer, vous voyez qu'il y a une envergure radicalement différente, eh bien, il semble qu'il y ait un texte qui contredit cette donnée. Je vais vous l'indiquer rapidement et vous donner aussi la réponse. Je vais prendre le sujet qui se trouve au verset 1 du chapitre 7. Alors, je vais faire appel quand même à des connaissances d'hébreu, au moins pour un mot, mais j'expliquerai, j'espère, suffisamment. Voilà. Voilà ce que nous dit le verset. Lorsque Noach a construit l'arche, et vous savez qu'il l'a construit, et que pendant 120 ans, il a tenté d'exhorter sa génération au repentir en leur annonçant qu'il allait arriver cette catastrophe du déluge, témoignage en étant que lui construisait une arche pour être sauvé. Mais quoi qu'il en soit, de cette bonne volonté de sauver sa génération, Noach n'a pas réussi à être ce sauveur. Et si nous revenons au point de départ du problème, au fond, celui qui peut être sauveur mérite d'être sauvé. Et c'est ce que nous voyons avec Abraham. Abraham sauve sa génération, alors que Noach n'arrive pas à sauver sa génération, c'est lui qui est sauvé. C'est pourquoi le fait que la Torah a dit qu'il a trouvé grâce se renforce et se renforcera à chaque nouvelle remarque. J'ouvrirai une parenthèse à propos de l'identité de Moïse. Moïse est appelé par le nom de Moshe, nous dit la Torah, parce que la fille du Pharaon qui l'a sauvé dit « Ki minamaim meshitihu » car je l'ai sauvé des eaux. Alors, en réalité, il devrait s'appeler « Mashouy » en hébreu, « sauvé ». Et pourtant, il s'appelle « Moshe » qui signifie « sauveur ». Si « Mashouy » signifie « sauvé », »,« Moshe » signifie « sauveur ». Ah oui, le lien, c'est que Moïse est sauvé parce qu'il est sauveur, alors que Noach est sauvé, bien qu'il n'étant pas sauveur. Donc, c'est vraiment gratuit. Est-ce que c'est clair? Alors, notre verset dit ceci. Lorsque, après les 120 ans d'exhortation de Noach à sa génération, de faire tchouva sur les mœurs de ce temps, et je vous l'indique au début du cours, la violence, et que cela est inefficace, et on apprend qu'il n'est pas capable de cela, alors Dieu lui dit ceci. Prenez le verset 1 du chapitre 7, « Vayomer Hachem et Noach » et regardez bien, c'est Hachem qui parle. Et il dit à Noach, « Bo'ata v'chol betecha et ateba » Viens, toi et toute ta maison, dans l'arche, qui otra raïti tzadik l'infanaï badorazi. Car toi, j'ai vu juste devant moi dans cette génération. Alors ce verset semble contredire, vous avez remarqué absolument, ce parallèle que le Midrash faisait entre Noach d'un côté et Abraham de l'autre. Je reprends les termes de notre verset. Vayomer Hachem le Noach, Boata vechol betecha el ateva, et Dieu dit, Hachem dit à Noach, viens, toi et toute ta maison, vers l'arche, dans l'arche, car toi, j'ai vu, qui autre a réussi, tzadik, toi, j'ai vu, tzadik, les fanailles, devant moi, m'a de raser. Est-ce que c'est clair? Même ceux qui ne savent pas encore suffisamment les mots, vous entendez la difficulté. Okay? Alors, je ne laisserai pas le suspense trop longtemps, parce qu'il faut connaître un peu d'hébreu pour se rendre compte qu'il y a une forme particulière qui est envoyée dans le verset et qui nous donne la solution de notre difficulté. Il faut lire comme cela. Il n'est pas écrit qui réitira ta dit, je t'ai vu. En hébreu, pour dire je t'ai vu, on dit réitira. Il y a écrit autra réiti. Toi, j'ai vu. Mais ce toi-là, en hébreu, ça veut dire ce qui est avec toi. Quand vous apprendrez suffisamment de grammaire, vous verrez que le mot de « être » qui va être ici « haute okay, » signifie aussi cela, mais en particulier le mot de « haute » qui indique l'accusatif, le complément d'objet. Lorsqu'une personne, le pronom personnel du complément d'objet, c'est « oti, otra, oto okay. ». Ça veut dire un signe. Alors on va le lire comme ça. « Qui otra » on peut le lire comme « haute becha », ton signe, je l'ai vu tzadik devant moi. Et ce signe, c'est Abraham que Noach porte en lui. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Il n'y a pas de contradiction. Si Noach a été sauvé, c'est parce qu'il portait en lui la possibilité d'Abraham. Et c'est ce que dit notre premier verset. Voici l'histoire des enfants de Noach et ça aboutit à Abraham. Alors je reprends l'équation, maintenant j'espère qu'elle est simplifiée. Parmi tous les tzadikim possibles à la manière de Noach, c'est Noach qui est sauvé gratuitement. Mais ce n'est pas arbitraire. Il y a une raison qui le sauve. Ce n'est pas son mérite. C'est sa descendance. Alors, simplement, comparer ces deux termes. C'est gratuit, au-delà du mérite, à l'échelle individuelle. Mais ce n'est pas arbitraire, il y a une raison. Ses contemporains ne peuvent pas comprendre pourquoi c'est lui qui est sauvé plutôt qu'un autre. Dieu seul le sait. Enfin, Dieu seul sait que Noach porte en lui la possibilité d'Abraham. En réalité, c'est Abraham qui a sauvé Noach. Vous avez compris donc que... On va reprendre, si c'est clair, on va reprendre maintenant Rashi. Rashi avait dit, « Oui, Veiskiro, super Veshipro. » Puisqu'il l'a mentionné, à qui il a mentionné? À Noach. Alors il nous dit sa louange. « Sheneema, d'après le verset qui dit, « Zecher tzadik livracha. » Le souvenir du juste est en bénédiction. Ça veut dire, lorsqu'on a à citer un juste, il faut dire la bénédiction qu'il représente. Parce que si on cite le nom d'un juste, c'est pour la bénédiction qu'il représente. Et donc, on a cité Noach, alors on dit qu'il est tzadik. Pour que l'on sache que la Torah ne veut pas que nous croyons que Dieu peut sauver un rachat. C'est clair? Mais ce n'est pas parce qu'il est tzadik qu'il l'a sauvé. Ça ne suffisait pas. Est-ce que c'est clair? Disons, en un autre langage, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. La condition suffisante, c'est que parmi tous les tzadikim possibles de son temps, il y en a un qui porte en lui la possibilité d'Abraham. Alors, c'est clair? Alors, c'est Noir qui a été sauvé. Maintenant, je vous donnerai ce qu'on appelle un chidouche, c'est-à-dire un renouvellement de sens du verset qu'a cité Rashi. Lorsque vous lirez ce texte, vous arriverez à la fin de la paracha de Noir. Et la fin de la paracha de Noir, c'est l'apparition d'Abraham sur la scène de l'histoire. Or, lisez ce que Dieu dit à Abraham dès le début, au verset 2 du chapitre 12. Au début de la Tracha, au chapitre 2 du chapitre 12, c'est quoi, au verset 2 du chapitre 12, Ve'esra levoy gadol, et je ferai de toi une grande nation, Va'barechecha, et je te bénirai, avec la bénédiction apparaît là, c'est clair? Va'gadela shemecha, j'agrandirai ton nom, Ve'heye beracha, et tu seras bénédiction. Alors cette émergence de ce terme et de la notion qu'il représente de bénédiction dans l'histoire d'Abraham, c'est un tournant. La bénédiction avait disparu dès la faute du premier homme. Et elle revient avec Abraham. Ça, nous l'étudierons à propos d'Abraham. C'est clair. Et à partir d'Abraham, c'est vrai que le texte nous fait assister à cela, on cherche par qui passe la bénédiction. Et par qui passe la bénédiction se révélera la loi de sainteté, pour attacher au cours de la fois précédente. Je crois que j'avais terminé sur cette notion d'ailleurs la fois précédente. Or, qu'est-ce que dit le verset que cite Rashi? Alors je vous répète, on va le lire au niveau d'un chidouche, d'un renouvellement de sens. Zecher tzadik, la mention du tzadik noir, libracha, c'est en vue d'Abraham qui est la bracha. Et vous avez au début de cette paracha noir, qu'on l'a mentionné comme préface à l'histoire d'Abraham. Voilà donc pour cette première remarque. Je la récapitule en une phrase. On apprend que Noah est un tzaddik, mais pas d'une nature telle que cela aurait expliqué pourquoi il méritait d'être rescapé du déluge. En réalité, s'il a été rescapé du déluge, c'est parce qu'il porte en lui une manière d'être tzaddik qui le dépasse, mais qui est déjà en germe, en potentiel en lui, c'est Abraham que sa descendance finira par engendrer encore au bout de 10 générations. Voilà, est-ce que c'est clair jusque-là? Il n'en reste pas moins que ce noir, ce n'est pas rien. C'est un tzaddik à l'échelle universelle. Et alors vous avez une première identité humaine universelle qu'on appelle les Bnei Noir, les fils de Noir. Et la Torah nous raconte 10 générations de leur histoire jusqu'à l'apparition d'Abraham et la dispersion de cette humanité qui recommence à exister après le déluge en différentes nations. Ça, c'est l'intitulé général des 10 générations dont l'histoire commence à partir de Noé et qui vont jusqu'au temps d'Abraham. Alors je voudrais vous donner peut-être l'étude de un ou deux thèmes de cette période en préface à l'histoire d'Abraham. Prenez le chapitre 10, le chapitre 11. Vous avez l'énumération de la descendance de Noah à travers trois lignées, et chacune ont un génie humain propre, et on s'aperçoit que l'humanité s'est différenciée, s'est diversifiée en différentes familles qui en fin de compte deviendront ce que nous appelons les nations, en hébreu l'égoïme. Pour le moment et provisoirement, ce mot n'a aucun sens péjoratif dans le vocabulaire de la Torah. C'est beaucoup plus tard, dans les langues juives, que ce mot de Goy a pu prendre un sens péjoratif à cause de ce que les Juifs ont subi de la part des nations. C'est clair ce qu'il dit là. Mais le sens étymologique, ça veut dire les nations. Voilà, première remarque que vous ferez en relisant ce chapitre 10, les généalogies de la diversification de l'humanité à partir de Noah, c'est qu'il n'y a pas du tout dans ces nations un Israël quelconque. C'est clair ? Retenez bien cette remarque. Israël ne fait pas partie des nations. La dispersion de l'humanité à partir de Noah, c'est 70 nations de base, c'est le chiffre que la tradition gardera pour dire la multiplicité minimum, la diversité humaine est à l'indice 70. Et parmi ces 70 nations, il n'y a pas Israël. C'est clair jusque-là ? Première remarque. Alors nous allons avoir à rencontrer une catégorie du vocabulaire biblique et de la tradition juive qui est difficile à intégrer dans les évidences d'explication occidentale contemporaine. Imaginez de quoi on nous parle. L'humanité se divise en deux. D'un côté, tout le monde, et de l'autre côté, un minuscule petit peuple, Israël. C'est ce couple de notions, Israël, les nations, Israël, les goïms, qui traverse toute notre histoire et qui est, pour les non-juifs, quelque chose de scandaleux. Pour beaucoup de juifs aussi. Où est le scandale ? Qu'est-ce que peut signifier une catégorie pareille, une humanité où vous avez d'un côté tout le monde et de l'autre côté les juifs, enfin Israël. Est-ce que c'est clair ? Il faut commencer à s'habituer à cela. Qu'est-ce que ça signifie ? Et je crois d'ailleurs que les nations ont perçu depuis le commencement de cette histoire, ça fait beaucoup de siècles qui sont passés, nous sommes privilégiés parce qu'on a le témoignage de l'histoire. Les nations du monde ont pris acte qu'il y avait deux manières d'être homme dans le monde, les goïms et les autres. C'est clair, ça s'appelle antisémitisme. Ne serait-ce que ça. C'est un phénomène tellement permanent, tellement énorme, systématique, qu'on a fini par se familiariser à sa banalité, si j'ose dire, et c'est un tort, mais qu'on ne peut pas ne pas le mettre en évidence. Quelles que soient les explications qu'on veut se donner de l'antisémitisme pour le banaliser et pour le ramener à un simple phénomène de xénophobie, tout le monde sait, les juifs et les goïms, qu'il s'agit d'autre chose. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Alors, on est en train de découvrir une notion qu'on appelle en logique assez polémique, agressive. D'un côté Israël, de l'autre côté les nations. Le Midrash ne s'est pas trompé lorsqu'il veut expliquer le terme de hébreu que la Torah emploie pour la première fois pour Abraham à Ivri. Le Midrash dit, il y a trois Midrashim sur ce terme, je vous en cite un qui concerne notre sujet, que Abraham est Ever Echad, Bechol Ha'olam Kulo, mais Ever Hashem. Qu'Abraham est d'un côté et le monde entier de l'autre côté. Parce que Ever, ça veut dire au-delà. C'est donc dans ce même. Mais je reviens à la remarque de base, c'est que de toutes les nations du monde que la Torah énumère comme résultat de la diversité de l'humanité à partir de Noah, il y a 70 identités humaines de base, tous les peuples contemporains, des milliers, sont des combinaisons plus ou moins compliquées de ces 70 nations de base. Eh bien, il n'y a pas Israël. Ça, je ne dirai pas plus sur ce point aujourd'hui pour vous laisser réfléchir à cela. Israël ne fait pas partie des nations d'après la Torah. Et alors, nous allons suivre un peu ce que la Torah nous indique au chapitre 11. Sommes-nous à l'occasion de vous énumérer un ou deux, peut-être plusieurs thèmes, et on choisira lesquels étudier par la suite pour arriver assez rapidement à l'identité d'Abraham. Lisons le premier verset. Veillez. Or, il arriva. Kola aret safa echad. Toute la terre était langue unique. Udvarim achadim. Et, je donne toute la traduction que dans le Talmud, et dialecte particulier. Dans vos traductions en français ou en autre langue, on traduit habituellement les paroles semblables. Mais si la langue est unique, les paroles sont semblables. Okay. C'est que simplement on ne sait pas traduire. Je vous cite un enseignement du Talmud qui dit ceci. C'est une discussion qui se trouve dans la Maseret Megillah du Talmud de Jérusalem, chapitre 1, Halakha 9. Une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan. Rabbi Eliezer dit, enfin l'un des deux dit, שהיו מדברים ב-70 לשון. זה אומר שכדי נשיון פרלה ב-70 לנג. ולאותר די, שהיו מדברים בלשון יחידו של עולם, בלשון הקודש. L'autre dit, ça veut dire qu'il parlait la langue de l'unique du monde, c'est-à-dire la langue de la révélation, le Lashon HaKodesh, la langue de la sainteté. Alors, ce n'est pas du tout une contradiction. Chacun d'entre eux va mettre en évidence la signification du verset. Ça veut dire, l'humanité était dans un état tel qu'elle avait une langue unique, mais que chaque nation avait son langage particulier, les 70 langues. C'est-à-dire, simultanément, il y avait les 70 langues propres à chacune des nations et une langue unique pour l'ensemble de l'humanité. Et ceci indique qu'il y avait un stade d'universel dans l'histoire humaine de la manière la plus absolue, chose qui va disparaître, se perdre dans l'épisode de la tour de Babel et qui va peser sur l'histoire de l'humanité à partir du récit de la tour de Babel jusqu'à la fin des temps. Et là, nous avons un premier thème extrêmement important. La Torah nous rappelle qu'il y a eu un stade de l'universel humain qui a été perdu. Et vous remarquerez que toutes les grandes civilisations, d'une manière ou d'une autre, mais je reviendrai plus en détail, ont gardé ce rêve de reconstruire l'universel humain. Et nous verrons que, dans l'histoire des Goïms, cette tentative de reconstruire l'universel humain aboutit systématiquement à l'échec. Et l'échec, c'est les empires dont la Torah va nous parler en nous racontant l'histoire des civilisations qu'Israël les prépare à traverser. Et ça, c'est très schématique, je reviendrai sur les détails. Alors, pourquoi je peux dire que ce verset indique que l'état de l'humanité était celui d'un universel concret, encore une fois, qui n'a jamais été retrouvé depuis, mais dont l'humanité a gardé la nostalgie. Vous savez à quel point les grands mouvements dits universalistes ont traversé l'histoire de l'humanité et que chaque fois qu'une civilisation arrive à son apogée, elle tend à reprendre en charge ce rêve de l'universel. Les contemporains ont ce mot-là à la bouche. Vous comprenez ce que je veux dire. Or, cela vient de ce que, selon la Torah, la définition de la spécificité humaine, c'est la capacité du langage. Alors dire que l'homme dispose d'une langue unique, ça voulait dire vraiment que l'humanité connaissait un stade de l'universel réel. Tant que les hommes ne parleront pas une langue unique, la paix n'est pas possible. Par exemple, c'est une indication. Vous savez d'ailleurs que une parenthèse pas anecdotique, mais presque, enfin historique, qu'il y a eu des tentatives de retrouver, ou de chercher, ou d'inventer une langue unique, en particulier l'espéranto. Et c'est pas par hasard, c'est un juif qui a essayé de trouver l'espéranto. Un juif russe, son nom m'échappe. Dalmanov. Et il y en a d'autres d'ailleurs aussi. Bien, là il y a un thème très important, la langue universelle. Peut-être si cela vous intéresse, on l'étudiera pour lui-même, mais pour moi c'est une première indication. C'est-à-dire il y a eu un stade où la Torah indique qu'il y avait une langue universelle, donc garantie de l'universalité de l'humanité, et ça ne signifiait pas forcément uniformité. Chaque peuple a son usage propre. C'est les Dvarim Ahadim, les dialectes, les langages particuliers à chaque nation, qui fait la richesse du génie de chaque nation. Mais il y avait Sapa Echad, il y avait une langue unique. Ceci a disparu. Alors je vous dis très rapidement sur ce point ce que la Torah nous enseigne dans l'épisode de la tour de Babel, c'est qu'il y a une révolte contre le principe d'unité, contre le Dieu unique, et le résultat est que la langue unique a disparu et il n'est resté que le langage particulier. Alors les hommes ne se sont plus compris. Vous comprenez bien cette analyse. Habituellement on a tendance à dire les choses de façon un peu différente, que tout le monde parlait la même langue, et subitement, de façon magique, chacun s'est mis à parler une langue différente. C'est de la magie. Hein? Est-ce que c'est clair ce que vous dites ? Vous voyez comment le verset dit tout à fait autre chose. Le verset dit qu'il y avait une langue unique et les langages particuliers. La langue unique ayant disparu, il n'est resté que les langages particuliers. On ne s'est plus compris. Ça va jusque-là ? Donc, nous avons un premier thème, qui est celui de la langue universelle. Et les prophètes ont parlé de cela. Il arrivera un temps où l'humanité retrouvera une langue unique. C'est un des signes de l'indication de l'annonce des temps messianiques, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais je crois que le sujet vaut la peine d'être étudié pour lui-même. Si vous voulez, la prochaine fois, on le reprendra. Un deuxième thème que je vous indique très rapidement, c'est le fait que chaque nation, à tour de rôle, suivant les circonstances historiques, a repris en charge ce rêve de reconstruction de l'universel, et chaque fois ça a été un échec. C'est ce que j'appelais tout à l'heure l'impérialisme. Quelle est la différence entre l'universel, l'universalité, l'universalisme, si vous voulez, et l'impérialisme? L'universalisme, c'est de ça que nous décrit ce verset. Il y a unité humaine, mais chacun a son identité propre en paix. Au fond, c'est l'idéal messianique. C'est clair. Et nous y reviendrons. Tandis que l'impérialisme, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire, dans la recherche de cet universalisme, il y a échec par le fait qu'une nation en particulière, qui devient le chef de file des nations, pour des raisons historiques, économiques, militaires, dont on peut rendre compte à chaque époque, tente à imposer sa manière d'être aux autres nations. Ça, c'est l'impérialisme. Est-ce que c'est clair? Alors nous voyons que l'histoire des Goïms est condamnée à cet échec de l'universalisme qui s'appelle l'impérialisme. Et il n'y a pas d'exception. Chaque fois qu'un idéal d'universalisme est apparu dans l'histoire, il a culbuté dans l'échec de l'impérialisme. C'est vrai à tous les niveaux. C'est vrai dans les grandes religions dites universelles qui sont devenues des religions impérialistes. C'est vrai au niveau politique. C'est vrai au niveau idéologique, c'est vrai au niveau national, et ça c'est l'univers des Goïms selon le récit de la Torah. Je donne un exemple, celui que nous avons le mieux connu, puisque nous sommes de culture française, la Révolution française. Le rêve était universaliste, et l'humanité entière l'a entendu comme ça, les Juifs y compris. Et c'est clair. Bon, mais quatre ans après la Première République, la constitution de liberté, égalité et fraternité, l'universel humain, et c'est une histoire, c'est une date très importante de l'histoire de l'humanité, et d'Israël d'ailleurs, et du peuple juif, si vous voulez, de l'époque. Quelques années après, c'est l'Empire français, comme par hasard. Et effectivement, la manière d'être française, qui a rêvé à l'universel humain, impose la manière d'être française au nom de l'universel humain, soi-disant. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Ça s'est passé toujours. Le christianisme, l'islam, la révolution française, la révolution russe, tout ce que vous voudrez. J'ai trop peu de temps pour vous donner un panorama, mais il suffit de ce coup de projecteur. Il n'y a pas d'exception. Et alors, pendant tout ce temps-là, il n'y a pas d'Israël. Ça, c'est l'histoire des nations. Et ce rêve de reconstruction de l'unité humaine échoue, culbute dans l'échec de l'universalisme qui est l'impérialisme. Et c'est pourquoi la tradition nous parle des empires, des malchouyotes. Et je vous donnerai tout de suite la raison de cela, mais simplement pour indiquer que, en fin de compte, devant le jugement, ce diagnostic de l'échec de la reconstruction de l'unité, de l'universel, Dieu va susciter d'une de ces familles-là, et on signera laquelle, va susciter d'une de ces nations, du dedans d'une de ces nations, une autre manière d'être homme, qui commence avec Abraham et qui sera Israël, et qui reprend en charge ce rêve de reconstruction de l'universel dans la perspective messianique qui n'a rien à voir avec la perspective impérielle. Et ce sera le deuxième thème que nous aurons à étudier, et nous verrons quel en est le développement. Alors la raison de l'échec est très simple. C'est que, alors que le rêve est authentique, le véhicule humain à la disposition de ce rêve est partiel. Les nations du monde ont chacune emporté une part, une dimension du génie humain. Et elles ne peuvent être que ce qu'elles sont. Donc, au niveau de la société qui porte ce rêve-là, le véhicule social, sociologique, est partiel, typé, très précis. Et c'est pourquoi le rêve, à voix être authentique, la réalité devient impérialiste. Est-ce que l'explication vous paraît suffisamment claire, okay? Si vous étudiez les penseurs de la Révolution française, en tant que penseurs, ils étaient certainement sincères. Ils ont pensé à l'échelle de l'universel. Mais en tant que chef politique, fondateur de gouvernements nationaux, il était français, pas universel. Lorsqu'on est de culture française, on n'est peut-être pas sensible à cela. Qu'un français, ça peut être tout autant exotique pour quelqu'un d'autre que n'importe qui. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, hein? Quand on est français, on ne se rend pas compte qu'on est exotique. Mais parce qu'on croit que c'est normal d'être français, tous les autres sont des étrangers. Vous avez compris ce que je veux dire. Alors que c'est réciproque. Quand un persan pense à la France, eh bien, il pense comme à quelque chose de très exotique. J'avais dit, il y a une personne. Il a inversé. Comment peut-on être français, dirait un persan. Voilà, c'est clair ce que je dis là. Alors vous voyez, cet homme de la Révolution française qui va fonder l'Empire français et qui va imposer, par exemple, aux petits Sénégalais, le modèle français de l'universel humain, c'est-à-dire nos ancêtres les Gaulois. Vous avez connu cela, quoi. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que c'est inévitable. Comme si les goïmes, dans le sens étymologique, sont condamnés à cet échec de l'impérialisme. Alors, l'espérance messianique ne va commencer qu'avec Abraham. C'est une manière d'être homme qui n'a rien à voir avec tout ça. Voilà pourquoi je vous disais au début, le chapitre 10 nous montre que parmi les 70 nations, il n'y a pas trace d'Israël. Ça ne fait pas partie des goïmes. Est-ce que c'est clair? Et je vais vous donner deux thèmes. Il y en a d'autres, nous pouvons les reprendre la prochaine fois. Caractéristiques de cette période des 10 générations entre Noah et Abraham. Je les rappelle, et vous me direz la prochaine fois par lequel on commence, si vous voulez. Le thème de la langue unique, la langue universelle, le Lachon HaKodesh, comme dit la Gemara, est celui de l'échec des empires. Et, suivant la tradition, il y aura 4 grands empires qui vont se succéder. Et ce n'est qu'à la cinquième époque qu'apparaîtra le royaume messianique. Or, nous verrons ce que signifie ce découpage de l'histoire, si vous voulez, en Makriot. Il y a eu d'abord Babel, ensuite la Perse, Paras et Madaï, ensuite la Grèce, et ensuite Rome. Et après, c'est le royaume de Mashiach. Alors, vous avez déjà deviné qu'on est déjà à la 11e heure. Donc, alors, on se reverra à la semaine prochaine.